Vous pouvez maintenant supporter ma chaîne en devenant un de mes patrons. Ben oui! Allez sur patreon.com/stupid. Cliquez sur « Become a patron ». Choisissez un montant d'engagement par vidéo. Enregistrez-vous. Choisissez un mode de paiement. Et voilà! Vous êtes maintenant un patron! Votre contribution est extrêmement précieuse et va me permettre de faire de meilleures vidéos de façon plus constante et ainsi propager notre message à plus de personnes. Merci de joindre la rébellion dès maintenant! Ah oui, go! Fais pause, si, vas-y! Salut tout le monde, ici Stupid et bienvenue à ce Dedans le Pit du 13 avril 2017. Et ce soir, je pose une question importante à quelqu'un d'important parce que ça prend quelqu'un d'important pour répondre à une question de la plus haute importance. Vous savez, la plupart des Québécois à qui on parle sont très insatisfaits du gouvernement, autant provincial que fédéral. Sauf que ce soir, on va parler du gouvernement provincial. Les libéraux, ça fait très longtemps qu'ils sont au pouvoir. Tout le monde s'en met en crise contre eux autres, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Et à la question, est-ce que le gouvernement actuel, formé par Philippe Couillard et les libéraux, et le gouvernement le plus corrompu de l'histoire du Québec? Eh bien, j'en parle ce soir avec le docteur AJ Fortin qui a enseigné 12 ans au HEC. Il sait de quoi il parle et des fois, les réponses qu'il nous donne ne sont pas toujours celles auxquelles on s'attend. Alors, docteur Fortin, bienvenue à Dedans le Pit.
Et merci, content d'être là.
Oui, puis content que tu sois là aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation, même si... pour une raison que j'ignore d'ailleurs, je me suis fait chier dessus pour t'avoir invité une deuxième fois sur mon show. Je me dis, voyons donc, le gars il est super brillant, il dit des vérités, il est divertissant, qu'est-ce que vous voulez de plus? Anyway, alors...
Tout ce que je peux, juste en commençant comme ça, j'aimerais dire à tous les fans de ton show qui n'ont pas vraiment aimé ma dernière prestation, que j'ai écrit un article qui est disponible sur ma page Facebook, qui reprend en profondeur, si on veut, ce qu'on a discuté la dernière fois, avec encore plus de chiffres et statistiques à l'appui. Et puis, il va être publié dans le Huffington Post, peut-être dans d'autres médias, on va voir, c'est les premiers qui m'ont répondu. Donc, ça risque de faire plaisir à tes auditeurs.
Mais je te dirais que la majorité t'ont beaucoup aimé. Mais je suis pas habitué, moi, de me faire critiquer. Je te dirais que j'ai un public étrangement souvent de mon bord. Tu sais, mettons, je te dirais que le taux de gens qui n'aiment pas ce que je fais dans ceux qui m'écoutent, ça va varier entre 5 et 7% à peu près. Et là, je te dirais que ça a monté comme à 20-25. Je suis pas habitué à ça. Mais rassure-toi, la majorité des gens qui écoutent mon show t'ont adoré et avaient hâte que tu reviennes. Puis il y en a d'autres qui se sont désabonnés de mon Patreon parce qu'il est en crise que tu sois revenu. Mais moi, je suis content que tu sois là. Là, ce soir, on a une grosse question qui va nécessiter beaucoup de réponses. Et puis tu me dis, ça va être dur de cruncher ça dans une heure. On va faire notre possible. Au pire, allez, on fera un take-two. La question, est-ce que le gouvernement provincial actuel, donc les libéraux de Philippe Couillard, est-ce que ce gouvernement-là est le plus corrompu de l'histoire du Québec?
Surprenamment, non, et même pas de proche. Par contre, il y a une tradition qui a toujours existé chez les libéraux, historiquement, de corruption, chez le Parti libéral du Québec. Et donc là, quand je parle de tradition, on retourne au début du 20e siècle. Donc, le Parti libéral a été au pouvoir de 1897 jusqu'à 1936. Donc, c'est long, là. On parle de presque 40 ans, là, finalement. Sans interruption. Donc, 40 ans au pouvoir. Et il faut retourner à l'époque, à ce moment-là, c'est là où se développait toute la République de bananes qui est le Québec, c'est-à-dire de donner nos ressources naturelles aux compagnies, aux multinationales, sans rien leur demander en échange. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont toujours donné en échange, ils ont donné à la caisse du parti qui leur donnait nos ressources. Donc, ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. L'exemple du plan Nord, je vais revenir tantôt, mais l'exemple du plan Nord de Jean Charest était le même principe à la base. Donc, à cette époque-là, comment ça fonctionnait? Bien, c'était très simple, c'est que on a commencé à développer l'hydroélectricité, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'Hydro-Québec à l'époque. Donc, c'était des compagnies privées qui développaient l'hydroélectricité au Québec, qui construisaient des barrages et ainsi de suite. On s'est mis à exploiter nos ressources minières. On s'est mis à raser notre forêt boréale. Toutes ces choses-là, c'est vraiment au début du siècle où on a connu un essor économique vraiment impressionnant grâce justement à l'exploitation de nos ressources. Ceci étant dit, nous, pour nos ressources, on recevait absolument rien en échange, mais le Parti libéral, qui était au pouvoir pendant ces 40 années-là, donc jusqu'en 1936, lui, ce qu'il recevait, c'est qu'il a reçu pendant ces 40 années-là des centaines de millions de dollars dans la caisse du parti venant des compagnies à qui ils octroyaient le droit d'exploiter gratuitement nos ressources naturelles. Donc, il n'y avait pas de système de redevance. Les compagnies prenaient ce qu'ils voulaient, exploitaient comme ils voulaient. On leur donnait, par exemple, des congés d'impôts. Ils ne payaient pas d'impôts, pas de taxes. Il n'y avait aucune loi sur l'environnement, donc ils pouvaient défricher ou creuser comme ils voulaient. Au niveau des relations employés-employeurs, si les employés, qui étaient évidemment, on retourne au début du siècle, qui avaient des conditions de travail misérables, qui étaient exploités, ben ces pauvres travailleurs-là, s'ils décidaient de faire la grève ou ainsi de suite, le Parti libéral s'assurait d'envoyer la police, de rentrer dans le tas et d'assurer ce qu'on appelait la paix, et ce qu'on appelle encore la paix sociale, de façon très ironique, parce que c'est l'usage de la force contre les propres citoyens d'un pays. Et donc, le gouvernement libéral faisait tout ça pour ces multinationales-là. Donc, leur donnait nos ressources et s'assurait qu'il y ait toutes les conditions gagnantes pour les exploiter. Et en retour, ils ont reçu des centaines de millions pendant 40 ans. Et en plus, c'était presque assuré que si tu étais un ministre libéral à l'époque et que tu décidais de prendre ta retraite, tu avais une job sur le conseil d'administration d'une des compagnies à qui on avait donné nos ressources.
Mais ça ressemble pas déjà à ça aujourd'hui, AJ. C'est pas un peu comme ça aussi, je veux dire. C'est sûr que dans ce temps-là, c'était plus facile de se cacher parce qu'il y avait juste les journaux écrits qui pouvaient renseigner le peuple. Puis c'est pas très difficile d'acheter des journaux. Maintenant, tu as Internet puis tout ça. Mais moi, des fois, j'ai l'impression que dans le temps, les libéraux avant Duplessis, qui étaient effectivement extrêmement crosseurs, ils pouvaient se cacher beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la crosse est à ciel ouvert. Et pour en revenir aux libéraux dans le temps, je te pose une petite question comme ça. Est-ce que tu penses que Duplessis a tassé les libéraux à cause de la corruption ou parce que les libéraux voulaient que les femmes aient le droit de vote?
Je dirais que c'est moitié-moitié parce qu'effectivement, ce qui est intéressant de Duplessis, c'est que c'est pas qu'il était moins corrompu, mais il a changé complètement le système de corruption et il en a inventé un nouveau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, puis on va y revenir tantôt, aujourd'hui, on vit dans un système où il y a deux niveaux de corruption différents. Et le premier avait été inventé par les libéraux au début du siècle, comme je viens de le raconter. Et Duplessis, lui, il a décidé qu'il voulait pas faire affaire. Il avait un sentiment... Le mot nationalisme n'existait pas vraiment à l'époque, mais il y avait un sentiment qu'on dirait anachroniquement maintenant, très nationaliste. Et ça faisait que lui, les grandes compagnies, les grandes multinationales étrangères, il ne voulait pas faire de business avec eux tant que ça. Et donc, le système de corruption que Duplessis a mis en place était au niveau local. Donc, lui, il s'est arrangé avec les élites locales partout au Québec pour que tous les contrats gouvernementaux qu'il avait octroyés à des entrepreneurs québécois, il se prenait un 10% là-dessus qui allait directement dans les coffres du parti. Donc, c'était ça le deal. Si tu voulais un contrat du gouvernement du Québec sous Duplessis, 10% du contrat, il fallait que tu le redonnes à Duplessis pour le mettre dans le coffre du parti, pour encore une fois financer le parti et les élections. Et ça a super bien marché. Ils ont été élus 4 fois de suite.
Et c'est une stratégie qui a été reprise par le maire Vaillancourt de Laval.
Ben, c'est là où on va en venir. C'est que là, si on établit déjà le premier niveau, c'est-à-dire les grosses compagnies qui donnent des millions et qui placent des anciens ministres sur des conseils d'administration, ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Mm-hmm. Et si on parle de corruption locale, comme le maire Vaillancourt est le pire exemple, mais les nombreux maires, l'opération Marteau, l'UPAC, la commission Charbonneau et ainsi de suite, ce système de corruption-là, au niveau local, où est-ce que tu travailles avec les élites économiques locales, donc des business d'ici et non pas des grosses multinationales qui viennent d'ailleurs ou des grandes entreprises, mais plutôt des PME, ben, on a aussi cette forme de corruption-là maintenant. Donc, c'est un bel héritage qu'à la fois les libéraux du début du siècle et ensuite Duplessis nous ont légué, c'est d'avoir instauré 2 niveaux différents de corruption pour le gouvernement.
Écoute, j'ai une question pour toi. L'abolition graduelle de la taxe sur le capital des entreprises et des banques qui a été en fait instaurée par Duplessis et abolie par Jean Charest, j'ai de la difficulté à voir une plus grosse crosse contre le peuple que ça. J'aimerais ça que tu nous en parles, puis j'aimerais ça que tu me dises, c'est-tu la pire affaire qui est arrivée dans notre histoire récente ou il y a eu pire encore?
Ben, je te dirais que ça va exactement dans abolir la taxe sur le capital de la même façon que taxer les gains en capitaux juste à moitié, tandis que ton salaire y est taxé à 100%. Tout ça fait partie d'une espèce de même système qui s'est mis en place effectivement à partir de Duplessis, où on a commencé, si on veut, à transférer, si on retourne à l'époque où Duplessis était au pouvoir, l'assiette fiscale du gouvernement du Québec, c'est-à-dire combien d'argent rentrait dans les coffres du gouvernement avec les taxes, les impôts et ainsi de suite, ça provenait à 50% des entreprises et 50% des particuliers. Donc, tout le monde payait sa part d'impôts égal, c'est-à-dire les citoyens en payaient la moitié, les entreprises en payaient la moitié, 50-50, pas de problème. À partir de ce moment-là où Duplessis a commencé à réduire la taxe sur le capital, on a vu aussi une transformation de notre système fiscal qui a fait que progressivement, et là ça va troubler tes auditeurs, mais tous ceux qui disent mes taxes, mes impôts, qui se sentent surtaxés, ils ont raison de se plaindre. Là où ils ont tort, c'est qu'ils comprennent très mal la mécanique derrière ça. Et la mécanique est la suivante, et elle est extrêmement simple. Les chiffres les plus récents que j'ai vérifiés, c'était de, je pense, 2014 ou 2013. Veux-tu savoir, on est rendu à c'est quel pourcentage qui est payé par les citoyens de taxes et d'impôts et quel pourcentage en termes de ce qui rentre dans les coffres de l'État?
En fait, est-ce que tu parles, par exemple, taxes-impôts confondus?
Parce oui, taxes, impôts confondus.
J'ai l'impression que les entreprises, maintenant, c'est en bas de 7-8%.
C'est exactement ça. Donc, on est passé de un système où c'était 50-50, la moitié pour les citoyens, la moitié les entreprises, à un système aujourd'hui où c'est à peu près 92% payé par les citoyens. Donc, les citoyens qui se sentent surtaxés et qui s'imaginent que c'est les programmes sociaux qui leur coûtent de l'argent, que c'est d'aider les gens sur l'aide financière de dernier recours, que c'est la protection de l'environnement, que c'est toutes ces choses-là qui leur coûtent une fortune en taxes, se rentrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que la réalité du problème, c'est qu'ils sont rendus les seuls à payer de l'impôt. Quand tu dis que les entreprises contribuent juste maintenant à 8%, ben, Québécois, demandez-vous pas pourquoi vous payez autant d'impôts. La réponse est très simple et très claire. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'en paye plus.
Juste parce qu'on parle de la taxe sur le capital des entreprises et des banques, juste pour que les gens comprennent, OK? Parce que ça n'a à peu près pas été abordé dans les médias de masse, ça. Donc, la taxe sur le capital des institutions financières et des entreprises rapportaient au Québec à chaque année, je pense que c'est 1,7 milliard. OK? 1,7 milliard à tous les ans. Et ça représentait entre 3 et 4 % des revenus du gouvernement québécois. C'est une taxe qui était là depuis Duplessis et Jean Charest, pour aucune raison, a annulé cette taxe-là. Donc, juste le fait d'avoir tourné la switch à off pour aucune raison prive le Québec de 1,7 milliard de dollars par année. Puis après ça, ils vont vouloir couper les BS, leur chèque de BS, puis ils vont donner... c'est 1,4 milliard à Bombardier qu'on va jamais revoir, puis ils vont couper des programmes sociaux. Ils cherchent de l'argent. Il était là, l'argent! Il était là! Alors, c'est une corruption incroyable, et il n'y a pas juste ça. Il y a aussi les ponts, par exemple, en PPP, là, le pont du A25 puis du A30, qui donne à des gangsters, surtout le A25. Encore une fois, c'est démontré que, à ciel ouvert, le gouvernement... En tout cas, de Charest, parce que le gouvernement de Couillard, c'est juste la continuité de Charest. Je veux dire, Pauline Marois, ça a été comme... ça a été quoi? Un hockey, dans le fond, là, dans l'histoire de la politique. C'est un gouvernement qui, à ciel ouvert, prend des décisions continuellement à l'encontre des citoyens, et c'est dans notre face. Mais Jeff Plante, lui, dirait que les entreprises n'ont pas d'affaires à payer d'impôts, mais on ne devrait pas leur donner des subventions. Moi, personnellement, je me dis, regarde, on avait un système avant qui fonctionnait bien quand c'était 50-50 au niveau des...
Jeff Plante, qui est détenteur de PME en passant.
Ouais,
donc,
c'est vrai.
Et toutes les PME québécoises carburent aux subventions pour partir. Et ce qui est bien, parce que ça crée de l'emploi. C'est pas comme Bonmerdier où on leur donne de l'argent qu'on reverra jamais et ils font des mises à pied pendant ce temps-là.
Exactement.
Les PME, c'est eux qui sont créatrices d'emplois et donc ils méritent d'être subventionnés pour se partir au départ et s'aider à se développer pour qu'ils puissent embaucher le plus d'employés possible et créer de l'emploi.
Mais maintenant, là, dans la mondialisation, le contexte de la mondialisation, ça serait-tu possible maintenant de tourner la roue dans l'autre sens tranquillement puis d'essayer de remonter puis d'avoir une meilleure participation des entreprises aux finances du Québec et du Canada, ou tu penses que c'est maintenant impossible?
Il y a plusieurs pays qui le font. On a juste à regarder les pays scandinaves. Les taux de taxation des entreprises sont beaucoup plus élevés qu'ici. Même, et ça va surprendre beaucoup de gens, mais les règles fiscales américaines sont plus sévères que les règles fiscales canadiennes et québécoises. C'est-à-dire que les compagnies qui font affaire aux États-Unis vont avoir à payer, ce ne sera pas nécessairement en taux d'impôt, mais en termes de charges sociales complètes, ils vont avoir à payer plus que les entreprises qui opèrent ici. Par exemple, au Québec, à chaque année, entre 48 et 60 c'est beaucoup, 48 et 60 des multinationales qui font affaire ici ne paient pas un sou d'impôt. Pas un.
Mm-hmm.
Pas un sou d'impôt pendant qu'ils font des profits annuels en moyenne de 25 milliards de dollars. Donc, ils font 25 milliards de profits nets et ne paient pas un sou d'impôt. Expliquez-moi, quelqu'un, comment est-ce que ça peut être tolérable alors que, pendant ce temps-là, eux, nous, citoyens, notre salaire y est taxé. Quand on met du gaz, on est taxé. Quand on achète quoi que ce soit, on est hyper taxé. Et pendant ce temps-là, les compagnies peuvent faire 25 milliards sans payer un sou d'impôt.
En fait, les conservateurs, ce qu'ils vont dire, c'est les entreprises ne paient pas d'impôts, mais par contre, ils créent de l'emploi. Et les gens qu'ils embauchent, eux autres, ils payent de l'impôt. Ce qu'ils achètent, bon, c'est vrai qu'ils payent des taxes, mais ils se le font créditer de l'autre bord. Puis aussi, ben, si tu étouffes les entreprises avec des impôts, ils vont moins réinvestir leur capital, etc. Toi, tu sembles dire que c'est de la grosse bullshit.
C'est complètement faux parce que, en réalité, parce que c'était ça, l'idée d'avoir de baisser la taxe sur le capital, entre autres, c'est de favoriser la recherche, le développement pour finalement favoriser l'innovation dans les entreprises, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent leurs profits dans l'entreprise pour que l'entreprise devienne plus performante, engage plus d'employés, ainsi de suite. Or, dans la réalité, si on regarde ce qui s'est passé dans les à peu près 40 dernières années, ben un peu plus que ça, mettons 50 dernières années, c'est exactement l'inverse. Moins on leur fait payer d'impôts et moins ils réinvestissent dans leur propre entreprise et moins ils créent de l'emploi. Donc, il faudrait se poser une question. Ils ne payent pas d'impôts, on leur donne des subventions, puis ils ne créent pas d'emplois, ils font des mises à pied. Donc, où est la fonction économique derrière cette logique-là?
Toi, tu ferais quoi avec Bombardier? Quand même, il y a encore quoi, une soixantaine de milliers d'emplois au Québec. C'est une compagnie, en tout cas, là, qui est très susceptible de faire faillite d'ici les 20 prochaines années. On investit
beaucoup moins longtemps que 20, mais ouais.
Ouais, c'est, ben, mettons, je suis conservateur.
Ouais, on leur donne de l'argent. Optimiste.
Oui, on leur donne des subventions. Ils ne payent pas d'impôts. Tu fais quoi avec une compagnie comme ça?
Moi, je la laisse crever.
Parce que dans le fond, le capitalisme, c'est ça. Mais là, si. Là par exemple, t'as une espèce de trou incroyable de 65 000 emplois et des bons emplois. Là, c'est pas des emplois au salaire minimum. C'est-tu comme, si. Par exemple, c'est une entreprise, tu sais, too big to fail? Ça serait-tu dans cette catégorie-là?
Il faudrait vraiment voir combien, parce que, bon... D'un, Bombardier a des usines maintenant partout dans le monde pour justement ne pas payer d'impôts et font des mises à pied. La majorité du temps, c'est ici qu'ils les font. C'est pas dans leurs usines en Irlande ou au Mexique. Et donc, est-ce que c'est vraiment encore un fleuron québécois qui est too big to fail? Est-ce qu'il faut le garder pour les quelques dizaines de milliers d'emplois que l'on garde? Ben, c'est très simple. Il faut faire un calcul coût-bénéfice et regarder est-ce que ça vaut la peine. Combien on leur donne, combien ils ne paient pas en impôts et combien d'emplois ils créent. Parce qu'il y a une statistique très intéressante qui s'applique uniquement au Québec. Et c'est extrêmement bizarre, mais notre fiscalité au Québec avec les entreprises est tellement mauvaise qu'entre ce qu'on prend aux citoyens, donc on taxe les citoyens, on les impose, on leur prend de l'argent, ils travaillent fort et on leur prend de l'argent, on a tout le temps la main dans leur poche. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On le donne à des compagnies qui, elles, ne paient pas d'impôts et créent très peu d'emplois. Or, dans la balance, entre ce qu'on donne aux entreprises et ce qu'ils nous rapportent en impôts au Québec, on a un déficit annuel de 1,5 milliard.
OK, donc finalement, si Bombardier fermait demain matin...
Il y a une partie du déficit qui serait épongée.
OK. Parce que j'avais pensé à quelque chose à un moment donné.
Juste pour finir là-dessus, oui. Juste en Ontario, je ne suis pas en train de parler de la Suède ou de l'Islande. Là. En Ontario, eux, ils reçoivent 6 milliards dans les coffres de l'État de plus de la part des entreprises que ce qu'ils leur donnent en subvention. Mmh. Alors, quelle économie est la plus robuste? L'économie ontarienne ou l'économie québécoise?
Ben, ontarienne par une grosse marge.
Et voilà. Mais malgré ça, eux, les gouvernements ontariens ne se font pas fourrer. Ils s'assurent de recevoir plus d'argent de la part des entreprises qu'ils leur en donnent. Ici, ben, on va encore chercher dans les poches des citoyens pour que nos entreprises ne paient pas d'impôts et aient des subventions. Et en bout de ligne, ben, ça coûte 1,5 milliard à toi, à moi, à tous tes auditeurs et à tous les citoyens contribuables du Québec. À chaque année, ça nous coûte 1,5 milliard de nos poches pour garder sur le respirateur artificiel des compagnies qui gardent quelques emplois peut-être, mais n'en créent plus. Et en plus de plus en créer, rapporte absolument rien dans les coffres de l'État.
Y en a-tu d'autres comme Bombardier, comme ça? Peut-être pas aussi flagrant, mais d'après toi, il y a combien de compagnies qui sont, dans le fond, des BS corporatifs, qui ne payent pas d'impôts, qui reçoivent beaucoup plus de subventions que ce qu'ils peuvent rapporter.
Québécois, c'est l'économie, l'économie au Québec fonctionne comme ça. C'est toute l'économie québécoise, mais on peut penser, par exemple, étant donné qu'on parle en même temps de corruption, là, des compagnies de génie conseil comme Roche ou des SNC-Lavalin, là, mm-hmm. où on a donné, puis finalement, tout le monde était corrompu là-dedans. C'était une magouille. SNC-Lavalin, ça a été un désastre. Roche est dans... Et je vais en parler tantôt si on a le temps, est très ami avec le Parti libéral. Et donc, ils sont encore en vie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à une certaine époque, ça fonctionnait, ce modèle-là. C'est comme ça qu'on a bâti ce qu'on appelle le Québec Inc. Mm-hmm. Toutes nos grandes entreprises dont on est si fiers, comme Québécois, d'avoir des grosses business qui se sont bâties ici, ces entreprises-là se sont bâties principalement à partir des années 60, donc à partir de la fin du règne de Duplessis, quand l'État s'est mis à investir énormément dans l'économie et donc à donner des subventions aux entreprises pour qu'elles se développent. Et ça marchait parce que plus elles se développaient, plus elles créaient d'emplois, plus elles payaient d'impôts, donc il n'y avait aucun problème à les encourager. Et c'est comme ça qu'on a développé notre économie. Et c'était génial comme système. Le problème, c'est qu'on continue à faire ça alors que les entreprises, elles, ne font plus ce qu'elles faisaient auparavant, c'est-à-dire payer de l'impôt et créer de l'emploi, qui était la raison pour laquelle on leur donnait cet argent-là. Donc, on a gardé un système qui a très bien marché à l'époque où c'était du donnant-donnant. On donnait aux entreprises, mais on recevait d'eux en retour. Tandis que maintenant, on donne encore aux entreprises, mais on ne reçoit plus rien. Puis c'est le citoyen qui paye la facture à la fin de la journée.
Donc, finalement, on peut dire que le système actuel peut absolument pas être changé parce que c'est tellement ancré fort que je veux dire, c'est un peu comme le système, par exemple, des octrois de contrats. Il y a eu la commission Charbonneau, puis finalement, tu te rends compte qu'après tout ce flafla là, c'est encore comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a changé.
André, si j'ai commencé en parlant de quand le Parti libéral du Québec a pris le pouvoir en 1897 et a instauré un régime de corruption qui a été modifié pour nous en donner un deuxième système de corruption pour qu'on en ait deux maintenant, et ça a perduré, à vrai dire, il y a uniquement sous René Lévesque où il n'y a presque pas eu de corruption au Québec. Parce qu'on était dans un processus de nationalisation, parce que justement, il y avait cette idée-là qui prenait de plus en plus d'ampleur de nationalisme, de sentiment d'appartenance, de l'idée de la séparation du reste du Canada, de former un pays, et ainsi de suite. Donc, pendant cette époque-là, il y a presque pas eu de corruption, et même par la suite, quand le PQ a eu le pouvoir... de 1914 à 2003, je pense. Même à cette époque-là, il y a eu un petit peu de, on va dire, de concubinage avec la FTQ, mais c'est les seules traces de corruption qu'on peut retrouver du PQ à cette époque-là. Par contre, les libéraux, eux, ils nous ont toujours gardé ce même héritage-là. J'ai gardé le chiffre exact ici pour m'en rappeler. Donc, sous Bourassa, pendant toutes les années que Bourassa a été au pouvoir, sur 65 des entreprises qui ont reçu des contrats majeurs du gouvernement, donc on peut penser à nos routes, à nos infrastructures, des choses comme ça, sur 65 des compagnies qui ont reçu des contrats majeurs, il y en a 57 qui ont contribué au Parti libéral du Québec. Mm-hmm. Donc, la tendance se maintenait, que les libéraux avaient parti au début du siècle, que Duplessis avait développé d'une autre manière. Bien, sous Bourassa, ça a continué. Puis là, bien, on n'est même pas encore rendu à parler de l'ère Charest, là, qui est carrément le comble du ridicule.
Oui, puis ben, qui continue aujourd'hui. D'ailleurs, lui qui a vraiment résisté... avant de créer la commission Charbonneau qui, au départ, avait même pas de pouvoir.
Exactement.
Et puis là, on est dans une situation maintenant où le Parti libéral est à peu près pas délogeable. Tu vois, il est protégé par pas mal l'ensemble des médias. C'est-à-dire que, par exemple, Gabriel Nadeau-Dubois s'en va à Québec solidaire. On devrait tous s'en colisser. Mais là, c'est devenu quelque chose de big parce qu'ils veulent que QS aille chercher un 15% des votes. Le PQ, dans un geste complètement ridicule, essaie de se marier avec cette bande de marioles. Puis là, t'as la CAQ qui est un petit peu laissée de côté parce qu'eux autres, ils ont ça à peu près 15-17% des intentions de vote. Fait qu'on split le vote pour être sûr que le Parti libéral rentre tout le temps. Et il n'y a absolument aucune critique d'aucun média contre le Parti libéral, à part des niaiseries, genre le ministre du Transport qui n'a pas fait sa job quand il y a eu une tempête de neige. Ça, ils vont en parler pour nous donner l'impression qu'ils combattent le gouvernement.
Exact.
Mais absolument rien sur le pont du A25 et A30 qui coûte 100 fois plus cher que si on l'avait fait nous autres. L'abolition de la taxe sur le capital des banques, des institutions financières, des investissements. Personne n'est challenge avec le 1,3 milliard qu'on donne à Bombardier.
Mais pendant ce temps-là, jusqu'au dernier budget où là, ils veulent se racheter, étant donné qu'il va y avoir des élections dans quelques années, qui sont à mi-mandat. Mais ils ont coupé dans tous les services sociaux possibles.
Mais ils ne sont pas en danger du tout.
Tes auditeurs qui ont des enfants ont vu les coupures dans les CPE, ouais, dans les écoles, dans toutes ces choses-là. Nos petits vieux qui ont juste le droit à un bain par semaine, qui mangent des patates en poudre dans des CHSLD. Et la liste est finit plus, là. Mm-hmm. Ils ont coupé dans tous les programmes possibles et pendant ce temps-là, justement, personne ne les challenge sur rien et on peut laisser nos petits vieux dans leur caca, ça, il n'y a pas de problème, mais on va donner un bon milliard à Bombardier pour qu'il fasse faillite dans 5 ans et qu'il continue à mettre des employés à pied.
Ce qui est incroyable aussi, c'est que même Québécois, je veux dire, Couillard, il a passé il y a quelques semaines ou quelques mois à une émission quelconque là, à TVA Nouvelles, il s'est fait licher. Mais tu te dis, attends une minute, là, Québécois, ça appartient à PKP. PKP est un adversaire politique des libéraux, en tout cas, peut-être juste en façade. Mais tu te dis, qui va se lever devant ce gouvernement-là et parler d'autre chose que du retour des Nordiques, des pitbulls,
exactement,
du déneigement. Puis là, tu vois même là, des journalistes qui étaient considérés comme rebelles.
Mais c'est tout. En plus, les Canadiens ont fait les playoffs. À l'époque, les Romains appelaient ça en latin panem et circense, qui veut dire du pain et des jeux.
Oui, c'est ça. Fait que pendant
donc,
qu'on
c'est la fameuse expression.
Ouais.
Donc, c'est ça. On divertit. Quand une tempête de neige, on fait comme si ah là, on va faire une commission d'enquête, là, c'est un vrai problème. Pendant que les vrais problèmes, on les voit jamais dans aucun média. Et le reste du temps, ben, l'important, c'est de bannir les pitbulls, que le Canadien gagne le match demain soir parce que hier, c'était un peu triste. Et que à part ça, ben, tout va bien.
Une fois de temps en temps, une loi anti-proxénète.
Ouais, exactement.
On va légaliser le pot. Parce qu'on voit vraiment que tu veux, nos politiciens travaillent très fort pour, d'une part, nous protéger et assurer notre avenir économique. Chose que les gouvernements ne font plus, en tout cas au Canada, depuis plusieurs décennies. Alors, on parlait de corruption du Québec, puis je voudrais aussi que tu parles parce que c'est flou un peu. Et c'est tellement gros que ça se peut presque pas. Aux États-Unis, quand ils ont créé le Federal Reserve, ils ont parti à une espèce de système d'endettement qui fait que les citoyens sont devenus des esclaves d'une dette. Et on n'avait pas ça au Canada avant les années 70. Et ça a été instauré par le père de Justin, Pierre-Éliott Trudeau, qui, dans les années 70, a décidé d'arrêter d'emprunter à la Banque du Canada pour commencer à emprunter à des banques privées. De là, une explosion de la dette du pays. Et ça, ça serait peut-être la plus grosse crosse de notre pays. Je suis-tu dans le champ où c'est où il y avait-tu
non,
raison de faire ça?
Ben non, effectivement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que encore une fois, et là, on parle du Parti libéral du Canada, mais c'est le retour de l'ascenseur. C'est-à-dire que on s'est mis, sans vraiment que les citoyens le décident, là, mais on s'est mis à emprunter à des banques privées. Or, si tu regardes, à chaque élection, la liste des plus grands donateurs corporatifs, là on parle au fédéral, autant aux conservateurs qu'aux libéraux, les banques se retrouvent toujours dans la liste. Si tu fais un top, je sais pas, moi je vais dire top 20, parce qu'il faut pas oublier qu'on a toute une industrie pétrolière qui elle aussi est très intéressée à influencer notre gouvernement au fédéral. Mais sinon, ben si on fait un top 15 ou un top 20, on va retrouver toutes les grandes banques comme parmi les 20 plus dans le top 20 des plus grands donateurs aux partis politiques. Donc inévitablement, ce que Trudeau a commencé, ben c'était juste un retour d'ascenseur, c'est-à-dire on va vous emprunter de l'argent à vous maintenant, vous allez pouvoir faire de l'argent sur notre dos. De toute façon, c'est le pays et les citoyens qui s'endettent, fait que c'est pas mon problème. Et par contre, en retour, vous allez nous assurer de garder le pouvoir et d'être élu.
Mais ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut se renverser? Parce que je vois pas comment ça peut arriver aux États-Unis. Par exemple, dans la campagne présidentielle de 2008, tu avais Ron Paul, que c'était sa plateforme d'éliminer la Federal Reserve et tout ça. Et il s'est fait démolir par les médias comme Fox News, par exemple. On ne laissait pas parler une seconde. Il avait gagné un débat à un moment donné parce que les Républicains, ils sont tout le temps genre 12 là, sur le débat.
Ouais.
Et lui, dans le sondage, après un débat très important, je pense qu'il y avait comme 38% des gens qui avaient dit « Ron Paul a gagné le débat », alors que tous les autres avaient 2, 3 puis 4%. Quand il est sorti du débat, il s'est fait torcher par Sean Hannity, il l'a pas laissé parler, parce que dans leur tête à eux autres, c'est « touche pas à Federal Reserve
ben »,
même si c'est le cancer de notre société.
Exact.
Et je comprends pas que on a fait ça au Canada, ben en fait, Pierre-Éliott Trudeau, dans les années 70, quand même 60 ans après les Américains. Comment que tu peux justifier une chose comme ça? Et est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parce que la Banque du Canada existe toujours.
Absolument. On pourrait le faire. On pourrait le faire et on pourrait même, théoriquement, emprunter à la Banque du Canada pour rembourser ce qu'on doit aux banques privées et le problème serait réglé. Maintenant, oui. La Banque du Canada, Stu, est-ce que tu penses qu'elle va donner beaucoup à la caisse du Parti libéral ou du Parti conservateur?
Pas une scène.
Pas une scène. Fait que pourquoi est-ce que nos politiciens feraient ça? Comment ils vont financer leur campagne? Comment ils vont avoir du budget pour être réélus et tout le temps garder le pouvoir? Faut que quelqu'un leur donne de l'argent pour financer leur campagne. Fait que c'est pas dans leur intérêt du tout de changer cette situation-là. Mais en théorie, c'est très faisable.
Ben c'est ça, c'est bien plus faisable ici qu'aux États-Unis.
Absolument. Aux États-Unis, avec la Fed, on oublie le projet. Là.
C'est ça.
Comme tu as dit, le cancer était le bon mot. Là. C'est, la Fed est un des cancers de l'humanité.
Et notre système à nous, c'est un cancer aussi, sauf que c'est un cancer qui a un remède. Dans le fond, la pilule est sur le bureau, t'as juste à l'avaler.
Exactement.
Mais il n'y a pas un seul politicien qui va le faire. Pas personne. Et surtout maintenant où on sent vraiment qu'il y a une convergence des médias, ils peuvent plus se cacher maintenant les médias. Parce que Avant, il donnait comme l'impression que il y avait une espèce de diversité des idées politiques. Il y avait certains chroniqueurs qui avaient des opinions un peu plus à gauche, d'autres un peu plus à droite, certains plus conservateurs, plus libéraux, etc. Maintenant, on voit que c'est de la poudre aux yeux parce qu'à la minute où il y a un enjeu important, ils vont 100% du temps se liguer pour l'establishment.
Absolument.
On le voit avec Trump, on le voit avec Le Pen, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est pas grave. C'est pas normal. C'est comme si demain matin, tous les journaux, toutes les radios se liguaient contre Québec solidaire, même si je voterais jamais Québec solidaire. Je me dirais, attends une minute, là. C'est pas normal, là. C'est un parti quand même qui va aller chercher 8-12% des intentions de vote. Comment ça que tout le monde est contre eux autres, il se passe quelque chose? Comment ça se fait que tous les médias sont à tous les jours contre Trump, qui a été élu quand même par la moitié de la population américaine, et Marine Le Pen, qui est présentement supportée par à peu près 40% des électeurs en France? Comment ça se fait que 100% de nos médias sont contre ces personnes-là? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas normal. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a une convergence et que certains chroniqueurs vont se chicaner quand c'est le temps des pitbulls.
Exactement.
Puis des conneries. Mais aussitôt que l'enjeu est important, soit qu'on le camoufle ou qu'on se met du côté de l'establishment. Et ça, c'est tout le monde, même Québécois.
Absolument. Et comme tu dis, ce qui est surprenant, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les compagnies, que ce soit les banques ou les autres, toutes les formes de compagnies, les compagnies de construction, les banques, les compagnies de génie conseil, si on est au Canada, on parle d'industrie pétrolière aussi, tout le lobby agroalimentaire au Canada et au Québec, c'est sensiblement une mafia. Donc, tous ces gens-là ont beaucoup à cœur la politique, beaucoup plus que le citoyen moyen. Et eux n'auront pas peur d'investir et de donner de l'argent aux deux ou aux trois partis s'il faut, tant qu'on garde le statu quo. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a aucun parti qui va changer les règles du jeu et des règles qui sont inégales pour défavoriser la population et favoriser les compagnies, ben tant qu'il n'y a aucun gouvernement, aucun parti politique qui va changer ça, on va donner à n'importe quel parti. Et on peut bien le voir presque à chaque élection. Bon, au Québec, c'est un cas particulier. Là, les libéraux sont les champions de la corruption à ce niveau-là, si on veut, de tous les mécanismes qu'ils ont trouvés pour se financer et garder le pouvoir. Mais le PQ reçoit quand même de l'argent des mêmes compagnies. Ils en reçoivent beaucoup moins, mais si on regarde au niveau national, au Canada, c'est beaucoup plus proche. C'est sûr qu'il y a certains groupes, bon, s'ils sont extrêmement à droite ou extrêmement à gauche ou peu importe, vont uniquement donner à certaines personnes. Mais la majorité des entreprises, la masse des compagnies au pays vont donner allègrement aux deux parties. Parce qu'ils savent très bien qu'aucun des deux parties vont changer les règles du jeu.
Exactement. Puis on est dans un système de bipartisme. Ici, au Québec, ça va se jouer tout le temps entre le Parti québécois qui est rendu une joke et le Parti libéral qui est une joke triste. Si tu regardes, par exemple, au Canada, le NPD avait le vent dans les voiles et puis à un moment donné, ça s'est mis à planter parce que l'establishment, les journaux de l'establishment ont joué un rôle là-dedans. Ils ont commencé à couvrir négativement le NPD. Mario Dumont, qui a failli être élu premier ministre du Québec après à minute, quand il est devenu dans l'opposition et qu'il était un réel danger pour Jean Charest, là, finalement, c'était silence radio dans les médias. Notre
Exactement.
Beau petit jeune Mario, on n'en parle plus. Puis là, un moment donné, là, dans les émissions de radio puis dans les éditorialistes disaient « Qu'est-ce qu'il fait Mario Dumont? Il fait pas grand-chose. On est déçus de lui. » Tu sais, le gars est dans l'opposition, là. on est déçu, il fait pas grand-chose. On est déçu. Puis là, les gens, ils disaient, ah, ben là, on peut pas voter pour Mario Dumont, hein, il est décevant.
C'est ça qu'il est décevant. Exactement.
Il est pas au pouvoir. C'est comme, OK, les journaux sont déçus de la performance de l'opposition. Mais ils disent pas un mot sur les crosses de Jean Charest. Et après ça, ben, t'as eu Pauline qui a eu un petit...
Un 10 minutes au pouvoir, juste pour mettre ça sur son CV.
En fait, elle a failli être la première, le même soir, la première femme élue première ministre
et premier
élu assassiné également. Et là, tu vois, et rappelle-toi du climat au niveau de ces élections-là, comment Jean Charest était détesté. Puis là, on s'est dit, écoute, ça va être un balayage comme dans le temps de Mulroney, là. Tu sais, ça va.
Ouais, exactement.
Ils vont se faire torcher. Ils ont eu 50 sièges dans le plus creux de leur popularité. 50 sièges! Ça a été la défaite la plus extraordinaire de leur vie!
Parce que c'est. Absolument.
Qu'est-ce qu'on peut faire de pire que ça pour fourrer le peuple? On a tout fait ce qu'on était capable pour fourrer le peuple. Puis là, on se dit, bon, ben, le PQ va être au pouvoir 8 ans, là, pendant ce temps-là, on va se faire oublier, on va revenir à 8 ans. Non! 18 mois plus tard, les gens votent pour nous autres!
Absolument. Ben, 200 000 crétins descendent dans la rue à Montréal contre le gouvernement Charest et 2 ans plus tard, revotent pour lui. C'est, bravo.
Ben, c'est parce qu'ils ont une base tellement solide. Parce que, écoute, c'est le cas de, on a des partis deux de pique, comme le Québec solidaire, Parti québécois. T'sais, la CAQ, dans le fond, c'est un parti qui se cherche depuis le départ, il cherche une identité. Puis là, t'as un leader, François Legault, que moi, personnellement, je les aime tous, ces gens-là. T'sais, Couillard, c'est un gars, personnellement, là, ça a l'air d'un bon Jack, c'est Legault, ça a l'air d'un bon Jack, les gens de Québec solidaire. Mais François Legault se cherche une identité depuis qu'il est arrivé en politique et il fait des gaffes, il n'y a pas de conviction. Là, tu dis...
C'est comme s'il n'y avait aucun plan. Il intervient spontanément sur n'importe quelle question. Il va prendre position puis il va critiquer le gouvernement, mais... C'est comme jamais dans un plan cohérent avec un programme qui proposerait quelque chose puis qui s'opposerait clairement à quelque chose. C'est juste, ah ben là, il y a du monde qui sont restés pognés sur une autoroute, faut que l'essor soit renvoyé.
Puis tu vois, comme au moins Mario Dumont, il avait des convictions.
Absolument.
Même que tu l'aimes pas, il avait des convictions. Il voulait vendre 10% d'Hydro-Québec, je pense que j'ai sauté 25 pieds dans les airs. Mais il y avait des convictions. Legault n'a aucune conviction. À un moment donné, il a abordé, il disait, l'immigration, peut-être qu'on devrait passer de 50 000 par année à 40 000. Il s'est fait pitcher des roches. OK, c'est beau, touche pas à ça. Aucune espèce de conviction. On dirait que c'est comme s'il pêche, il lance sa ligne à l'eau, il regarde si ça va mordre.
Ah, exactement.
Ça mord pas, on recommence, on relance la ligne à l'eau. Oups, il y a un requin qui saute dans le bateau. Ouah, lâche la canne, puis il s'en va broyer dans son coin. Il n'y a pas d'alternative au Québec, honnêtement. Il n'y a pas personne qui peut être élu à part le Parti libéral, à moins qu'il y ait un sauveur qui arrive. Puis quand je dis sauveur, je dis comme Trump. Dans le sens où une personne qui est indépendante de fortune, tu sais, oublie la personnalité de Trump puis ses idées politiques puis tout ça. Je parle d'un milliardaire qui a une grande gueule, qui est capable de parler directement au peuple, qui ne passera pas par les médias traditionnels. Ça prendrait quelqu'un comme ça, on dirait, mais cette personne-là n'existe pas au Québec. Il n'y a personne. À moins peut-être un des dragons, je sais pas.
Ben, moi, le connaissant personnellement, je peux dire que Pierre Carl aurait fait ça s'il n'avait pas été pogné dans... je veux pas paraître sexiste, là, mais dans des histoires avec Julie. Là. C'est aussi simple que ça. Il aurait été ce gars-là.
Mais la question que
je me pose, c'est que il y a beaucoup de Québécois il y a beaucoup de Québécois qui sont à droite et qui admirent Trump. Mais en même temps, au Québec, on a une culture de... On n'aime pas trop ça, les gens qui sont meilleurs que nous, qui réussissent trop, et ainsi de suite. Fait que l'espèce de sauveur milliardaire, je suis pas certain que les gens auraient trippé tant que ça.
Mais Pierre Péladeau, père, s'il avait été vivant, aurait pu être cette personne-là. Parce que même s'il était extrêmement riche, il puait le peuple.
Ça, je peux dire qu'il puait tout court.
Ouais, mais c'était à l'époque aussi, là.
Je l'ai connu quand j'étais très, très jeune. J'étais enfant. Mais c'est parce que, ben, tout le monde le sait, il y avait un immense chalet à Sainte-Adèle. Et puis, lui, mon père et deux, trois autres investisseurs avaient acheté l'hôtel de Chanteclair à Sainte-Adèle. Donc, moi, je le voyais souvent. Je le côtoyais. Je le croisais, bon, sur la montagne, un peu partout. Donc, c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai connu Pierre-Carl. Je pense que j'avais 15-16 ans quand j'ai rencontré Pierre-Carl pour la première fois. Oui, il puait le peuple.
C'est un homme de conviction aussi.
Mais il y avait, justement, il avait peur de rien.
C'est ça. Un peu comme Trump.
C'est ça qui manque au Québec, je veux dire. Tout le monde a peur de tout.
Oui, parce que si tu regardes Trump, honnêtement, il connaît pas grand-chose sur rien. Il connaît pas grand-chose
sur rien. À vrai dire, il connaît rien sur rien.
C'est-à-dire, politique internationale, oh, il va pas d'économie. Tu sais, c'est un gars, OK, gros bon sens, il doit s'entourer de gens compétents. Je pense qu'il est capable de faire ça. Je pense que, tu sais, je le suis au niveau de ses convictions. Mieux lui que Hillary Clinton puis la gang de corrompus, autant du côté républicain que démocrate. Il y a bien des défauts, mais au moins, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de s'entourer et de faire une espèce de consensus, là, dans le sens où, oui, il va aller chercher des gens très conservateurs, même si lui, personnellement, il ne l'est pas. Il veut faire plaisir à son parti. Puis, il a rencontré Al Gore un moment donné pour lui demander des conseils sur l'environnement puis tout ça. Puis, ça n'a pas passé beaucoup dans les journaux, mais il l'a fait. Puis ici, c'est ça, un Pierre Péladeau père, ça, j'aurais cru à ça. Pierre-Carl Péladeau, je me suis posé des questions, sauf que Jean-Jacques Nantel, qui va être un des conférenciers au colloque du Mouvement républicain du Québec le 17 juin, lui également connaît Pierre-Carl Péladeau et il avait enlevé mes doutes, il avait dissipé mes doutes dans le sens, non, il a le cœur à la bonne place, c'est le bon gars pour la job, mais à un moment donné, tu te dis, même pas un an en politique, il n'y a pas de toffé la run. C'est-tu juste à cause de Julie? Il me semble que c'est pas fort, là. Juste à cause que ton mariage va pas bien, puis de laisser la politique comme ça. Il me semble que c'est un gars qui aurait pu s'inscrire dans les livres d'histoire du Québec. C'est pas mal plus important qu'une relation qui fail avec ta femme.
Effectivement, mais... Pierre-Carl est quelqu'un de très émotif, par contre, fait que ça explique peut-être une partie de ce qui est arrivé.
Puis c'était-tu vrai, ça, les rumeurs là, avec comment ça s'appelle la chanteuse en France, là, la femme de Sarko? Là.
Avec qui?
La femme de Sarkozy.
Carla Bruni.
Ouais, Carla Bruni, c'était-tu vrai, ça, ou ben non?
J'y ai jamais demandé, là, je pourrais pas te répondre.
Ben ça aurait été un scoop de Mongol.
Mais il semblait y avoir quand même certains détails concordants dans l'histoire, là, dans la série des faits. Donc, ça aurait été possible, mais j'ai aucune idée si ça s'est produit.
J'ai parlé du colloque qu'il allait avoir le 17 juin, qui est organisé par le Mouvement républicain du Québec. Et ces gens-là semblent avoir énormément de convictions. Ils sont craqués. Et ils veulent pas former un parti, mais ils veulent comme sensibiliser la population en faisant des colloques, des conférences, t'sais, avec des gens qui sont très qualifiés puis tout ça. Tu penses-tu que ces gens-là perdent leur temps complètement? Tu penses-tu que c'est que de faire du grassroots, il est trop tard pour ça. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu voulais renverser la vapeur puis qu'on ait un espoir, pas nécessairement de changer le gouvernement libéral pour un autre qui fait la même affaire, mais de changer ce système systématique de corruption au Québec?
Ben, moi, je pense que ce que ça prendrait, et ça existe dans plusieurs pays d'Europe, ça prendrait un gouvernement de coalition. C'est-à-dire pas un seul parti qui est au pouvoir et que tous les ministres viennent de ce parti-là et que toutes les décisions viennent du cabinet des ministres de ce parti-là et du premier ministre, et ainsi de suite.
Dans les Pays-Bas, par exemple, dans les Pays-Bas, c'est que genre 22 partis?
Exactement. T'as ça dans les Pays-Bas, t'as ça dans les pays scandinaves, c'est quand même assez répandu en Europe. Et ça évite une grosse partie de ce problème-là parce que si tu partages le pouvoir, si disons que sur, je sais pas moi, il y a les libéraux, je pense qu'ils ont 26 ministres ou 22 ministres en ce moment dans leur cabinet des ministres, bien si sur ces 26 personnes-là, t'en as, mettons, t'en avais 2 de Québec solidaire, 5 de la CAQ, je suis rendu 2 solidaires, 5 de la CAQ, mettons 9 du PQ, puis 10 du PLQ.
Mm-hmm.
Ben, c'est impossible qu'il y ait autant de crosses parce que à ce moment-là, les entreprises ne sauraient plus à qui donner leur argent parce qu'ils ne pourraient jamais s'assurer que leur volonté soit accomplie, que le gouvernement fasse ce qu'ils veulent. Il faut qu'il y ait un seul parti au pouvoir pour que ça soit possible. Dès que tu as un gouvernement de coalition, ben tu peux beaucoup plus difficilement le soudoyer parce que là, il faut que tu donnes à tous les partis proportionnellement à combien de sièges ils ont ou ainsi de suite. Donc, ça changerait les données, mais pour ça, il faudrait changer notre système politique et ça non plus, ça n'arrivera jamais. Donc.
Et qu'est-ce que tu penses de Jean-Martin Hossan, fils spirituel de Jacques Parizeau?
Moi, je le connais personnellement, Jean-Martin. Personnage extrêmement sympathique, très brillant, vraiment là, un cerveau impressionnant, quelqu'un avec qui j'ai eu des bonnes discussions. Mais on est les champions de ça au Québec, là, de pas se marier, faire des enfants, puis c'est tripé, gaga, gougou, notre famille, notre nombril, les petits go hockey la fin de semaine, les petites filles d'un cours de gymnastique. Puis il est en amour avec ses deux kids. Puis.
OK. Fait que c'est pas l'espèce de killer de Parizeau que 24 heures sur 24, ce gars-là, il était dans ses dossiers, puis il voulait rien savoir. Puis,
Il était comme ça avant.
Mm-hmm.
Jusqu'à ce qu'il ait ses enfants.
Mais là, c'est parce qu'il y a à peu près mon âge. Ben, il y a notre âge, dans le fond, on a le même âge, ou à peu près, là. C'est dans ce range d'âge-là que, justement, tu veux profiter de la vie un peu plus, là. Parce que quand je le vois, moi, s'associer avec Gabriel Nadeau-Dubois, je me dis, oh, attends une minute, là. Pas sûr, moi. Parce que si tu regardes Parizeau, tu sais, même si Parizeau était dans le Parti québécois, je pense qu'il était très conservateur, en tout cas, au niveau économique. Si tu t'en vas t'associer avec un gars comme Gabriel Nadeau-Dubois, je suis pas sûr, moi, que tu rends service à la population. Parce que ce gars-là, dans le fond, c'est un poster boy, là. C'est pas un gars qui a rien fait. Puis je pense qu'il il va en politique pour sa propre gloire, là. That's it.
Ce qui est un peu ironique aussi, c'est qu'il faut pas oublier que Jean-Martin a quitté Option Nationale, a quitté la politique ici au Québec pour aller travailler dans une compagnie de finance à Londres, en Angleterre, ouais, pour le bien de sa famille, pour faire plein de cash en finance.
Mais personne ne voulait l'embaucher ici.
Et là, il est revenu ici et ben c'est parce qu'ici, il était perçu comme un gauchiste.
C'est ça.
Mais alors que sur papier, c'est une maîtrise en économie ou en finance. C'est une maîtrise en économie ou en finance. Donc ailleurs dans le monde, eux, ils se foutaient complètement de ses ambitions politiques ici. Mm-hmm. Et donc, il est allé là-bas, il a fait plein d'argent. Et là, il revient ici. Il est tout content avec sa famille, puis je pense qu'il va adopter un troisième enfant qui serait Gabriel. Ouais. Mais c'est quand même ironique de voir quelqu'un qui est passé d'être... Et pourtant, je l'aime beaucoup, mais j'ai jamais vraiment compris comment tu peux passer d'être le chef d'un parti politique de gauche à aller travailler en finance à Londres et revenir ensuite ici t'associer au poster boy de la nouvelle gauche québécoise.
Parce que moi, je voyais pick-upper Jean-Martin Hossan, ça aurait été comme un wet dream aussi incroyable que s'il y avait eu un combat entre Dave Hilton et Arturo Gatti.
Absolument.
Fait que, puis là, ben, malheureusement, c'est terminé. Ce combat n'a jamais eu lieu et le mariage entre PKP et Jean-Martin Hossan non plus. Et puis, je vois pas avec qui Jean-Martin Hossan peut s'associer présentement pour donner un peu d'espoir aux Québécois. Écoute, je dois terminer cette émission maintenant. Je te remercie infiniment, AJ, d'avoir accepté mon invitation.
Je voulais juste mentionner quelque chose. Oui, si jamais les gens sont intéressés, si tes auditeurs sont intéressés à voir le désastre, mais sur toute la ligne qu'a été le gouvernement Charest avec qui on était pogné pendant 9 ans, de 2003 à 2012, là, si les gens veulent voir le désastre total que ça a été, il y a un site hyper bien fait qui est juste là-dessus. Ça s'appelle libéraux.net, mais libéraux, pas d'accent aigu. Mm-hmm. Et c'était tout fait par une seule personne, une fille qui s'appelle Geneviève Tardy,
ouais.
Et qui a fait un excellent travail de recherche pour construire ce site-là, pour qu'on ait, c'est classifié par sujet, tous les déboires et tout le débilisme profond du gouvernement Charest et tous les abus qu'ils ont fait à tous les niveaux, la corruption, tout ce qu'on veut. Donc, j'invite les gens que ça intéresse à aller voir. Et je te laisse sur une note comme ça pour terminer. Il faut pas oublier que Philippe Couillard était dans le cabinet de Jean Charest.
Ben oui.
Était un de ses ministres. Donc, et quand on regarde l'équipe libérale maintenant, Sam Ahmad aussi était dans le cabinet à Jean Charest.
L'État aussi.
Si on regarde les libéraux aujourd'hui, est-ce qu'ils ont vraiment changé, là?
C'est le même monde. C'est la même affaire.
C'est la même gang. Gardons espoir.
Ouais,
je sais pas en quoi, là, mais...
Bon, gardons espoir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et je remercie infiniment mon invité, le docteur AJ Fortin. Et vous voyez, mesdames et messieurs, il y en a qui disent « Ah, AJ, c'est un truc. » Non. C'est la... Docteur Fortin, c'est la personne la plus qualifiée au Québec pour parler de finances et d'économie. Point barre. Alors, merci d'avoir été là. Merci à ceux qui m'encouragent sur Patreon. Merci à ceux qui m'ont fait des dons PayPal aussi. Ça m'aide dans mon projet de construire un studio et de pouvoir recevoir des gens et augmenter la qualité de mes émissions. Alors, on se revoit bientôt. J'ai déjà mes deux prochaines entrevues qui sont cédulées. Une lundi où je rencontre le président de l'Association des parents catholiques du Québec. On va parler du programme sur l'éducation sexualité du Québec. Et jeudi prochain, je reçois Alex Douville et on va parler de liberté d'expression en humour. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là et on se revoit bientôt.